le grand réformateur Luther, était terrorisé à l'idée de la justice de Dieu. Et puis un beau jour, il a réalisé que la justice en question, elle le couvrait. Et là, ça a complètement changé sa vie. C'est ce qu'on vient de chanter, hein, « Couvert par ta justice ». Et là, il a découvert que ben, Dieu avait tout fait et qu'il n'avait pas à craindre une justice punitive parce que le Seigneur Jésus avait pris cette justice-là sur lui. On va continuer cette série sur l'Épître aux Éphésiens. On arrive au chapitre 3. Vous vous souvenez que dans le chapitre 2 de sa lettre aux Éphésiens, Paul a posé le diagnostic de Dieu sur l'humanité et indiqué la thérapeutique divine radicale. Le diagnostic, c'est « Tous les hommes, juifs comme païens, sont spirituellement morts devant Dieu. » Et la thérapeutique, « Mais, à cause de sa miséricorde et de son amour, Dieu a décidé de rendre la vie à ces mêmes hommes et femmes, bien sûr, moyennant leur foi en l'œuvre de son Fils. » C'est ce que la Bible appelle la première résurrection, résurrection pour le moment spirituelle, en attendant celle physique de nos corps lors du retour de Christ. Désormais, les païens sont dans la même proximité de Dieu que son peuple historique, les Juifs, et bénéficient des mêmes bénédictions et privilèges. Dieu est désormais le père d'un peuple unique de croyants, juifs et non-juifs. Tous jouissent d'une relation filiale avec lui, relation établie par le Saint-Esprit qui habite en chaque racheté. Alors Paul a comparé ce nouveau peuple à un édifice fondé sur l'enseignement de ses apôtres et prophètes, édifice dont son Saint-Fils Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Cet édifice est le nouveau et dernier temple de Dieu, fait de pierres vivantes, c'est-à-dire nous, son peuple, comme le dit l'apôtre Pierre dans le chapitre 2 de sa première épître. Alors nous allons lire ce chapitre 3 d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 3, je lis dans la version du semeur. C'est pourquoi, moi Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous les Juifs. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, les non-juifs, oui, bien sûr. Excusez-moi. Vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne le Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes, qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Ils font partie du même corps et ont part à la même promesse par le moyen de la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Étant unis à lui, par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elles contribuent à la gloire qui vous est destinée. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Alors Paul introduit ce nouveau chapitre de sa lettre par, au verset 1, « C'est pourquoi, moi Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous les non-juifs. » Point de suspension. Là, il a probablement dû arrêter sa dictée à son secrétaire et va interrompre son exposé par une longue digression. « Moi, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous les non-juifs. » En réalité, il était prisonnier des Romains. Mais il voit avec raison sa captivité comme découlant de sa relation avec son Seigneur. Son Seigneur a été mis à mort pour lui, et lui est prisonnier à cause du témoignage qu'il rend à la personne de Jésus. Pour vous, les non-juifs, Paul rappelle là comment il a été arrêté par Jésus lui-même du haut du ciel lorsqu'il se rendait à Damas pour persécuter les chrétiens qui habitaient cette ville. Cette mission lui sera transmise par un chrétien de Damas, Ananias, qui hésitait à rencontrer Paul, étant donné sa réputation de persécuteur. Le Seigneur avait dit à Ananias, « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux peuples étrangers et à leurs rois ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » On trouve ça en acte 9, verset 15. Cette longue parenthèse dans le discours de Paul va jusqu'à la fin du verset 13, parenthèse dans laquelle il va exposer le côté tout à fait inouï de la révélation qu'il a reçue de Dieu. Et l'évocation de cette révélation va le faire tomber à genoux dans la prière. C'est ce qu'on voit à partir du verset 14. Alors verset 2. Vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Cette responsabilité, c'était celle d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ aux non-juifs. Paul relate cela dans son épître aux Galates, au chapitre 2, versets 7 à 9. Pour ceux qui veulent le suivre, vous prenez Galates, chapitre 2, versets 7 à 9. Il écrit « Les frères de Jérusalem ont constaté que Dieu m'avait confié la charge d'annoncer l'évangile aux non-juifs, comme à Pierre, celle de l'annoncer aux juifs. » Verset 8, « Car celui qui a agi en Pierre pour qu'il soit l'apôtre des Juifs a aussi agi en moi pour que je sois celui des non-Juifs. » Verset 9, « Ainsi Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, l'Église de Jérusalem, ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié cette tâche particulière. C'est pourquoi ils nous ont serré la main, à Barnabas et à moi, en signe d'accord et de communion. » Dans d'autres traductions, on dit « ils m'ont donné la main d'association ». Ça revient à la même chose. « Et nous avons convenu ensemble que nous irions, nous, vers les peuples païens, tandis qu'eux se consacreraient aux Juifs. » Alors je reprends ma lecture d'Éphésiens 3. Donc verset 3, « Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. » Verset 4, « En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne Christ. » Alors la Bible du Semeur traduit ici par secret le mot grec « mysterion », qui a donné « mystère » en français. Mais ce mot n'avait pas le même sens à l'époque que maintenant. De nos jours, un mystère, c'est quelque chose d'incompréhensible, d'inexplicable. En réalité, le mot grec « mysterion » désigne quelque chose d'en effet mystérieux, caché, mais qui peut être révélé par celui qui en détient la clé. Et c'est exactement ce que Dieu a fait pour Paul concernant ce mystère. Il lui en a révélé la teneur. Au verset 5, « En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres et prophètes qu'il a consacrés à son service. » Le mystère en question, c'est cette notion de création d'un seul peuple de racheté, le nouveau peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Il y a bien quelques indices de ce mystère signalé par les prophètes de l'Ancien Testament, mais pas une révélation aussi claire que celle qui a été donnée à Paul et aux autres apôtres et prophètes du Nouveau Testament. Verset 6. Et ce secret, ou ce mystère, c'est que, par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs, ils font partie du même corps et ont part à la même promesse par le moyen de l'Évangile. Alors les juifs se considéraient, à juste titre, comme le peuple choisi par Dieu et devant hériter de bénédictions particulières, une terre bien à eux, la prospérité matérielle, être débarrassés de leurs ennemis, Dieu lui-même combattant pour eux, être les dépositaires privilégiés de sa loi, de son culte, etc. Mais ces bénédictions passaient en réalité par la circoncision du cœur, dont nous avons parlé la dernière fois, au chapitre 2. Et sur ce point, beaucoup d'entre eux ont manqué cet héritage par manque de foi et de discernement. En réalité, seul un reste d'entre eux bénéficiera de ces promesses parce que unis avec Jésus-Christ, union que la majorité a malheureusement rejetée à l'époque et rejette encore. Les non-juifs, c'est-à-dire tous les autres peuples de la terre, moyennant la foi en Jésus-Christ, bénéficient des mêmes privilèges et promesses que les juifs croyant en lui et qui ont constitué d'ailleurs les croyants de l'Église primitive. Cette Église était composée essentiellement, l'Église de Jérusalem, de Juifs qui ont cru en Jésus. Ils font partie du même corps. Comme je l'ai dit dimanche dernier, faire une distinction entre les Juifs chrétiens et les païens chrétiens n'a pas de sens. Pourtant, les Juifs chrétiens ont quelque peu tendance à se glorifier de leur particularité, encore de nos jours. Ils ont leur journal à eux, par exemple, et conservent quelques-unes des traditions du judaïsme. Et de leur côté, certains païens chrétiens s'imaginent que l'observation de certaines traditions juives fait d'eux de meilleurs chrétiens. On voit fleurir dans les librairies chrétiennes toute une littérature qui va dans ce sens. Eh bien, je pense que les deux n'ont probablement pas lu l'Épître aux Éphésiens. Verset 7. C'est de cet évangile que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. Paul est reconnaissant à Dieu de l'avoir arraché au fanatisme de son judaïsme d'autrefois. Et il reconnaît là une grâce de Dieu. Et il reconnaît du même coup qu'il a fallu un déploiement particulier de la puissance de Dieu pour le retourner ainsi. Il gardait certainement un souvenir aigu de sa chute de cheval, de la lumière aveuglante et de la voix qui lui avait parlé du ciel alors qu'il était sur le chemin de Damas. Mais bien plus encore que ces manifestations externes de la puissance de Dieu, il reconnaît sa puissance qui a changé son cœur. Réaliser cette fameuse circoncision du cœur qui est la marque du véritable peuple de Dieu. Ce changement radical a fait de lui, quasi immédiatement, un prédicateur zélé et puissant de l'Évangile. Alors au verset 8, Paul écrit « Oui, c'est à moi, le plus petit de tous les membres du peuple saint, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables de Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Paul n'était pas peu fier de ses titres de juif intégriste. Il rappelle dans sa lettre aux Philippiens quel était son état d'esprit de l'époque. En Philippiens 3, verset 5, il écrit « Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis, physiquement, le huitième jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu, littéralement hébreu des hébreux. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. » Mais au verset 7, « Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. » Et maintenant, on vient de le lire, il se considère comme le plus petit de tous les membres du peuple saint. De façon cocasse, Paul utilise le comparatif d'un superlatif. Le plus petit des plus petits de tous les saints. Ce qui est grammaticalement incorrect, hein, même en grec. Il ne s'agit pas d'un auto-dénigrement maladif. Avoir persécuté l'Église de Jésus-Christ, l'extraordinaire peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, l'aveuglement dont il a fait preuve jusque-là, lui saute aux yeux maintenant de façon dramatique. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Au verset 10, « Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. » Les puissances spirituelles, bonnes ou mauvaises, c'est-à-dire les anges, ne sont pas omniscientes. Elles apprennent, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de la sagesse de Dieu. Est-ce que nous réalisons bien cela? L'Église enseigne la vérité de Dieu non seulement à ses membres, mais aussi aux anges. Quelle gloire quand elle fonctionne bien, mais aussi quelle responsabilité et quelle honte quand elle se fourvoie. Peut-être la prise de conscience de ce fait pourrait-elle nous aider à lever les yeux de nos petits problèmes internes. Paul fait allusion à ce fait étonnant dans une autre épître, en 1 Corinthiens 11, au sujet de la tenue vestimentaire des sœurs dans l'Église. 1 Corinthiens 11, verset 10. « Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête un signe d'autorité à cause des anges. » À cause des anges. Ce signe sur la tête, le voile, correspondait au standard vestimentaire de l'époque de Paul. Mais ce qu'il signifie, la soumission féminine et le leadership masculin, reste valable pour toutes les époques et enseigne même les anges. Verset 11. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé par Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 12. Étant unis à lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Ce plan tenu caché en Dieu de toute éternité s'accomplit donc maintenant en Jésus-Christ. Cette union à Christ de tous ses rachetés leur donne une merveilleuse confiance, une merveilleuse liberté, une merveilleuse assurance pour s'approcher de Dieu. Plus personne n'est loin. Nous avons tous été approchés par l'œuvre de Jésus-Christ et par notre foi en lui. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit au chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous donc du trône de Dieu, du trône du Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elles contribuent à la gloire qui vous est destinée. Les lecteurs de Paul pouvaient être découragés de voir leur grand apôtre en prison et penser que si lui était empêché, alors l'Évangile perdait son meilleur héros, le héros au sens du proclamateur. En réalité, comme Paul l'a appris, c'est dans la faiblesse du serviteur que la puissance de Dieu peut donner toute sa force. L'Évangile de Jésus-Christ est glorieux et ne saurait être amoindri ou empêché par les assauts de l'ennemi pour le faire taire. Ce déploiement d'hostilité ne fait paradoxalement que renforcer sa vitalité et sa gloire. Et donc, Paul a terminé là sa longue digression, et on arrive au verset 14, où il reprend le fil de son, ce qu'il avait commencé au premier verset. « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom. » Ce que je viens de vous lire, là, c'est la traduction 21, qui est plus littérale que la version seconde, et à mon avis plus simple. Et là aussi, donc, comme je vous l'ai dit, Paul reprend le fil de ce qu'il avait interrompu. Pourquoi, Paul dit-il, voilà pourquoi? Quelle est la raison qui le pousse à prier maintenant? C'est sans doute tout ce qu'il vient d'exposer jusque-là, à savoir l'œuvre de réconciliation accomplie par Christ, tant des hommes avec Dieu que des juifs et des païens entre eux. Et cette vérité, il l'a reçue par révélation directe de Dieu. Il y a là un principe important pour nous. La révélation de la volonté de Dieu est le préalable à toute prière, à toute requête. John Stott écrit « Nous n'avons aucune autorité pour demander à Dieu ce qu'il n'a pas révélé comme étant sa volonté. » C'est pourquoi il ne faut jamais dissocier la prière de la lecture biblique. C'est dans l'Écriture, en effet, que Dieu a manifesté sa volonté, et c'est par la prière que nous lui demandons de l'accomplir. Par exemple, ce beau verset de Jean 15, verset 7, ceux du groupe de Maison Nord le savent théoriquement par cœur, « Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. » Et encore cet autre verset en 1 Jean 5, versets 14 et 15, « Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. » Alors revenons à notre texte. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, il y a un problème de traduction. Dans la plupart des traductions, il est écrit « toute famille tire son nom de ce Père, hein, sur la terre. » Mais dans le grec, c'est « passa patria ». Alors, le mot « patria » veut dire « famille ».« Passa », ça veut dire « toute ». Ça fait assonance, manifestement, avec le mot « père », le mot « pater ». Alors, donc, la traduction que je viens de lire est grammaticalement juste, mais un peu obscure quant à son sens. Qu'est-ce que ça veut dire que toute famille de la terre tire son nom? Il vaudrait mieux traduire « passa patria », et c'est l'option que défend John Stott, par « toute la famille ». Et là, on comprend mieux la relation avec l'exposé que Paul a fait du plan de Dieu de réunir en un seul peuple, maintenant une seule famille, tous les rachetés. Et Paul écrit « toute la famille dans le ciel et sur la terre ». Ah bon, dans le ciel ? Les croyants décédés, recueillis auprès du Seigneur au ciel, font également partie de cette famille et sont vus comme vivants. En Apocalypse 7, verset 9, nous lisons, donc Jean a eu une vision, et il dit « Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Et un peu plus loin, verset 14, « Un ange révèle à Jean qui sont ces personnes. » Il lui dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. » Verset 15, « C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. » C'est la même famille, dans le ciel comme sur la terre, qui tire son nom du même Père. Verset 16, « Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. » Notre frère Jean-Pierre a commenté cette prière de Paul dans son dernier message. Aussi, je n'y reviens pas. Elle est centrée sur l'incroyable amour de Christ que Paul souhaite que nous appréhendions quelque peu. John Stott écrit « L'amour de Christ est assez large pour embrasser l'humanité, toute l'humanité, juif et païen. Il est assez long pour durer éternellement. Il est assez profond pour atteindre le pécheur le plus vil. Il est assez haut pour s'élever jusqu'au ciel. » Je trouve que c'est bien vu. Paul ajoute que nous ne pourrons comprendre les dimensions de l'amour de Christ qu'avec tous les saints, vous avez remarqué. Pourquoi cette mention ? Le chrétien isolé peut certes saisir quelque chose de l'amour de Christ, mais ce qu'il en saisit restera confiné aux limites de son expérience personnelle. Pour comprendre tout l'amour de Dieu, il ne faut rien moins que tout le peuple de Dieu. L'ensemble de tous les saints, juifs et païens, hommes et femmes, jeunes et vieux, noirs et blancs, avec toute la diversité de leur contexte et de leurs expériences. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25, écrit « Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encouragez-vous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de son retour. » Et terminons en relisant cette magnifique doxologie des versets 20 et 21. « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. »